Nous sommes cette année, dans les études bibliques et dans quelques-uns de nos cultes aussi, dans la vie de David. Pour nos études bibliques, surtout, nos groupes de maison, et puis quelques prédications qu'on a eues déjà dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. Et le texte de ce matin, dans 2 Samuel 13, que nous lirons dans quelques minutes, fait partie du récit de cette vie de David. C'est un sujet très douloureux dont nous allons parler, mais dont la Bible ne cache pas l'existence. Le sujet des violences sexuelles. Faut-il en parler dans l'Église ? Question qu'on pourrait se poser, oui, il faut en parler dans l'Église pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les auteurs bibliques ne cachent pas ce problème. Il n'est pas mis sous le tapis. La violence et l'oppression des êtres humains sont mentionnés, y compris lorsqu'il s'agit de la famille royale. Ce que nous pouvons voir autour de nous aujourd'hui est présent dans le texte biblique. Les inégalités entre les hommes et les femmes, les viols, les féminicides. Dès le début, Dieu dit clairement que la domination masculine est une des conséquences de la chute. Ce qu'on peut lire en Genèse 3, verset 16. À aucun moment dans la parole de Dieu, la domination masculine n'est présentée comme une volonté de Dieu ou une simple donnée de la création, mais comme une conséquence de la chute, donc de la désobéissance à Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous devons parler des violences sexuelles dans l'Église, c'est que nous devons accueillir les victimes en reconnaissant le mal qui leur a été fait. L'Église doit avoir à cet égard une parole qui soit juste, et qui dénonce le mal. Enfin, il ne faut pas nous voiler la face. Les églises chrétiennes ne sont pas toujours des lieux de paix et de respect. Il y a des abus et des violences sexuelles dans nos milieux évangéliques aussi, et je pourrais malheureusement donner des témoignages. Alors j'espère que cette modeste prédication de ce matin sera une parole aussi qui libérera d'autres paroles enfouies dans la souffrance. Et un autre but aussi de cette prédication sera d'affirmer qu'en cas de violence sexuelle, seul l'agresseur ou le violeur est coupable. Nous allons maintenant lire dans la traduction de la Tob le texte de 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Voici ce qui arriva ensuite. Absalom, fils de David, avait une sœur fort belle, appelée Tamar. Amnon, fils de David, en devint amoureux. Amnon se rendit malade de chagrin à cause de sa sœur Tamar, car elle était vierge, et aux yeux d'Amnon, lui faire quelque chose aurait été prodigieusement difficile. Amnon avait un ami nommé Yonadav, fils de Shimea, frère de David. Yonadav était un homme très avisé. Il lui dit, « Pourquoi donc, fils du roi, es-tu si déprimé chaque matin? Ne veux-tu pas m'en informer ?» Amnon lui dit, « C'est Tamar, la sœur de mon frère Absalom, j'en suis amoureux. » Yonadav lui dit, « Couche-toi sur ton lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle apprête la nourriture sous mes yeux, de manière à ce que je la voie, qu'elle me l'apporte elle-même et je mangerai. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Permets que ma sœur Tamar vienne confectionner sous mes yeux deux crêpes, qu'elle me les apporte et je mangerai. » David envoya dire à Tamar chez elle, « Va donc chez ton frère Amnon et apprête-lui de la nourriture. » Tamar s'en alla alors chez son frère Amnon. Il était couché, elle prit de la pâte, la pétrit, confectionna les crêpes sous ses yeux et les fit cuire. Puis elle prit la poêle et la vida devant lui, mais il refusa de manger. Amnon dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Et tous ceux qui étaient près de lui sortirent. Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre, donne-la-moi et je mangerai. » Tamar prit les crêpes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans la chambre. Elle lui présenta à manger. Il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui dit, « Non, mon frère, ne me violente pas, car cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte ? Et toi, tu serais tenu en Israël pour un infâme. Parle donc au roi, il ne t'interdira pas de m'épouser. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il la maîtrisa, lui fit violence et coucha avec elle. Amnon se mit alors à la haïr violemment. Oui, la haine qu'il lui porta fut plus violente que l'amour qu'il avait eu pour elle. Amnon lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui dit, « Non, car me renvoyer serait un mal plus grand que l'autre, celui que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit, « Qu'on expulse cette fille de chez moi et verrouille la porte derrière elle. » Elle portait une tunique princière, car c'est ainsi que s'habillent les filles du roi quand elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et verrouilla la porte derrière elle. Tamar prit de la cendre et s'en couvrit la tête, déchira sa tunique princière, se mit la main sur la tête et partit en criant. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, n'y pense plus. » Tamar demeura donc abandonnée dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit toute cette affaire et en fut très irrité. Absalom ne dit plus un mot à son frère Amnon, car Absalom avait pris Amnon en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Voici un terrible récit qui pourrait être écrit aujourd'hui. Un homme impose par la force son désir sexuel à une femme, c'est le type de viol le plus fréquent. Et il est ici commis par un proche, car Amnon est un demi-frère de Tamar. Il n'est pas l'étranger dont on se méfierait, mais un proche, un membre de la famille. Et le texte nous montre très clairement qu'il y a usage de la force. Il la saisit, il la maîtrisa, est-il dit. Une stratégie aussi réfléchie a été élaborée pour en arriver là. C'est un viol que le violeur cherche ensuite à nier, en faisant de sa victime l'objet de sa haine. Il rejette Tamar, il la méprise, nous dit le texte. Tamar est probablement une femme très jeune. Elle va passer brutalement de l'insouciance à cette douleur terrible. Elle est rejetée, humiliée, elle se couvre la tête de cendre, elle déchire son vêtement princier de virginité, s'arrache les cheveux et part en hurlant. Tamar est comme morte et socialement détruite. Comment réagit alors David, son père, qui est aussi le père d'Amnon ? Il nous est dit que David fut très irrité, littéralement, ça brûla fort David en lui-même. Qu'est-ce qui le brûle fort ? Est-il brûlé par la colère, par la honte ? N'est-il pas renvoyé à sa propre histoire ? Qu'aurait-il pu faire contre ce fils, lui qui a fait assassiner un de ses chefs d'armée, Uri le Hittite, pour lui prendre sa femme ? À peine quelques chapitres avant. David ne dit rien, David ne fait rien, David ne rend pas justice. Nous avons là l'échec terrible d'un père et d'un roi. Tamar est une femme qui est victime de violence et personne autour d'elle ne prend sa défense. Cela la plonge dans un profond désarroi. Elle est une de ces innocentes à qui personne ne rend justice. Et le silence s'installe, celui de David, mais aussi celui d'Absalom, l'autre frère qui la supplie même de se taire. « Tais-toi, c'est ton frère, n'y pense plus. Comment peut-il croire qu'il est possible de ne plus y penser, d'oublier de tourner la page après quelque chose d'aussi grave, sans même la moindre excuse ?» Absalom accueille néanmoins chez lui sa sœur, qui a été déshonorée, il semble au moins un peu la comprendre. Et chose fondamentale pour Tamar, il la croit. Il l'invite à habiter chez lui, où elle sera protégée et où elle pourra vivre en paix, mais il est lâche et cruel en lui conseillant de se taire. Ce mauvais conseil du silence est d'ailleurs courant dans les viols intrafamiliaux. On n'accuse pas un père, un frère, un oncle, un ami fidèle. Face à des violences terribles, il y a ce risque, celui du silence. Et nos églises ne devraient pas être de tels lieux de silence, parce que les églises devraient être des lieux d'accueil, y compris d'accueil de la souffrance et de toutes les souffrances. Des lieux de paix, des lieux de confiance où exprimer sa blessure est quelque chose de possible. La loi de Dieu pour Israël stipule que dans le cas d'un viol commis à la campagne, c'est-à-dire sans témoin, la personne violée bénéficie de la présomption d'innocence. Elle a crié et personne n'est venu à son secours. C'est donc en plein accord avec la parole de Dieu que nous pouvons affirmer à toutes celles et ceux qui ont été victimes de viols ou d'attouchements qu'elles ne sont pas coupables. Vous n'êtes pas coupables. Face aux culpabilités insidieuses que l'on peut ressentir, il est important de dire clairement que les personnes agressées sexuellement n'ont pas commis de péché. Subir un viol, c'est être victime du mal, en aucun cas en être coupable. Dans notre texte, Tamar est totalement innocente. La Bible ne lui reproche rien. Au contraire, l'auteur biblique met en évidence un comportement exemplaire. Tout au long de ce récit, elle agit bien et elle est bien la seule à le faire. Et pourtant, personne ne la défend, personne ne l'écoute. Aucun homme ne lui vient lui dire qu'elle n'a rien perdu de sa dignité, qu'elle est seulement la victime d'une brute. Amnon brûle de désir envers Tamar. Tamar dit non, mais il la veut, il la prend. L'usage, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué à la lecture, l'usage choquant du verbe « aimer » ou l'expression « tomber amoureux » dans les premiers versets de notre passage n'est pas à prendre à la lettre ici. On voit bien qu'Amnon n'a pas réellement aimé Tamar. Il l'a prise de force. Il n'y a pas d'amour dans un viol, et c'est peut-être par ironie ou pour faire encore plus ressortir l'horreur de ce qu'a fait Amnon, que nous avons ici le mot « aimer ». C'est le contraire de l'amour. C'est un comportement primitif qu'a eu Amnon, qui ne distingue pas entre le désir sexuel et l'amour. L'Évangile établit clairement une distinction entre le désir et l'amour. Ce n'est pas la même chose. Ils peuvent heureusement se conjuguer dans le cadre du mariage. Cela dit, méfions-nous quand même au désir déguisé en amour. Le désir sans amour détruit. L'amour construit l'autre, l'épanouit, le sécurise, le protège. L'amour ne fait rien de laid. L'amour prend patience. L'amour ne cherche pas son intérêt. Certains commentateurs se sont posé la question, pourquoi Dieu ne parle-t-il pas directement dans ce récit? Et c'est alors qu'il nous propose de voir, dans les paroles mêmes de Tamar, la victime, la sagesse et la justice de Dieu. L'auteur biblique n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, car Tamar, dans ce passage, dit tout. Elle est en quelque sorte prophète, elle parle pour Dieu, elle dit non tout d'abord. Tamar dit qu'on n'agit pas ainsi en Israël, elle rappelle la loi. Non, Amnon, s'écria-t-elle, ne me fais pas violence, on n'agit pas ainsi en Israël, ne commets pas cet acte infâme. Où irai-je ensuite traîner ma honte? Et toi, tu passeras pour un ignoble individu en Israël. Voyons, parle-en plutôt au roi, il ne refusera pas de me donner à toi. Tamar rappelle la loi et avertit son frère. Il n'y a aucun élément ambigu concernant Tamar. Même après l'agression, lorsque son frère la rejette brutalement, elle réagit à nouveau en disant « Non, me renvoyer serait un crime encore plus grand que celui que tu viens de commettre. » Cette histoire nous donne finalement une héroïne, une porte-parole de Dieu aux paroles justes. Dieu n'a pas besoin d'ajouter un mot. Ce qu'il en pense, Tamar le dit. Reste un personnage que nous n'avons pas encore évoqué, cet ami d'Amnon nommé Yonadav. C'est lui qui fournit à Amnon le scénario pour qu'il puisse voir Tamar. Savait-il qu'Amnon la violerait? On ne peut pas en être totalement sûr. Peut-être pensait-il simplement organiser une entrevue. En tout cas, plusieurs interprètes établissent un parallèle entre le rôle de Yonadav dans cette histoire et le rôle que peut avoir la pornographie. Des enquêtes, en particulier une enquête qui date un petit peu, de l'IFOP, menée il y a une dizaine d'années, à l'automne 2013, des enquêtes ont tenté de montrer l'impact et l'influence de la pornographie sur les pratiques sexuelles des jeunes de 14 à 25 ans. Et il en ressort que la femme est souvent réduite à l'état d'un objet sexuel. Et dans notre texte, le rôle que joue Yonadav montre qu'il n'a pas plus de respect pour Tamar que pour un objet. Yonadav va jouer un rôle qui favorise l'image de la femme comme un objet de satisfaction de l'homme. Une commentatrice écrit, en parlant cette fois-ci d'Amnon, « Feignant la maladie, il lui demande de préparer un plat délicieux pour stimuler son faible appétit, alors que le mets raffiné qu'il entend dévorer, c'est elle. Pour ce prince privilégié habitué à voir ses moindres volontés s'accomplir, Tamar n'est qu'une simple friandise, pas plus conséquente qu'un de ses petits gâteaux, et non une personne réelle. » Dans la société de cette époque, une femme seule n'avait pas de statut. Aristote, qui est quand même une référence sur le plan intellectuel, a écrit ces choses terribles. « Le mâle est supérieur par nature et la femelle inférieure. L'un gouverne et l'autre est gouverné. » À l'époque de David, les femmes, comme les esclaves, étaient consacrées à la vie domestique et n'avaient aucun droit. Les femmes n'existaient qu'au travers d'un père dans leur enfance et ensuite au travers d'un mari. Tamar, comme toutes les femmes de son temps, a intégré cela. Et c'est pourquoi, pour survivre après cela, elle n'envisage que l'union, le mariage avec son violeur. Les récits de l'Ancien Testament qui mettent en avant les femmes ne sont pas nombreux. Mais on observe, en tournant les pages de notre Bible, un net changement dans les évangiles, surtout dans l'attitude de Jésus vis-à-vis des femmes. Pensons à la femme samaritaine en Jean 4, ou alors encore à la femme adultère en Jean 8, ou la prostituée qui verse du parfum sur les pieds de Jésus en Luc 7. On voit ce changement d'attitude envers les femmes jusque dans la généalogie même de Jésus qui ouvre l'évangile selon Matthieu où des femmes sont mentionnées, plusieurs, ce qui n'était pas habituel dans la culture de l'époque. Maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus de différence de statut entre l'homme et la femme. Paul demandera même à l'époux de se comporter comme Jésus-Christ à l'égard de son épouse, c'est-à-dire être prêt à donner sa vie pour sa femme, puisque c'est cela que Jésus a fait pour l'Église. L'Évangile renverse le système de domination masculine, l'attitude de Jésus, son enseignement et les conséquences de la croix ont bouleversé les normes établies de la société de l'époque. On pourrait dire que l'attitude de Jésus, est même à l'égard des femmes, est même contre-culturelle. Elle choquait, car il traitait les femmes à dignité égale avec les hommes. L'attitude de Jésus, son enseignement, les conséquences de son œuvre à la croix sont révolutionnaires et le demeurent encore aujourd'hui. L'Évangile nous pousse à reconnaître en chacune et chacun des personnes pleines de dignité. Dans l'Évangile, l'insulte, le mépris, la violence brutale, la violence sournoise n'ont pas leur place. L'Évangile nous dit encore que les hommes, comme les femmes, sont habités par une volonté propre, une dignité propre, une liberté de décision que nul n'a droit de contraindre. Tout être humain a la liberté de refuser, le droit de dire non, le droit d'être respecté et le devoir de respecter. Amen.